With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose, ma santé au naturel. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti!
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Nous allons parler aujourd'hui des solutions naturelles anti-stress. Je suis ravie d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour!
Bonjour Anne!
Alors, on va parler du stress aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop en stress. Vous me disiez que vous avez énormément de patients, donc vous êtes forcément vous aussi en stress, un peu comme tout le monde, j'imagine.
Ah bah en plus, c'est la rentrée, hein, donc ça en rajoute. Hein, on était tellement bien en vacances.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler de différents types de stress et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces différents types de stress?
Eh bien, c'est un mot dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Donc, tout dépend si on parle du stress tel que l'entend n'importe quel quidam, ou si on parle du stress tel qu'on peut l'entendre de façon scientifique. Notre vie n'est faite que d'adaptation, hein. Et donc à chaque dynamique qui va perturber notre environnement de base, on doit s'adapter, et ce qui va lancer cette dynamique d'adaptation, c'est une information de stress. Donc, elle se traduit dans notre organisme essentiellement par une montée en puissance de l'alpha sympathique dont on a déjà parlé.
Oui, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est vrai que c'est important de le répéter pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément entendu ces informations.
En fait, l'alpha sympathique est une partie du système nerveux végétatif. C'est la partie qui nous met en tension pour préparer l'action. Et lorsque quelqu'un se met derrière vous et vous fait « bouh !», eh bien, d'un seul coup, vous avez une décharge d'alpha sympathique dans votre corps. Et cette information neurologique va aller stimuler tout l'axe endocrinien qui gère les glandes surrénales, si bien qu'on dit que les glandes surrénales gèrent la survie de l'instant à chaque instant, car elles vont donner les éléments nécessaires à la réactivité du corps par rapport à cette information surprenante qu'il vient de recevoir.
Est-ce qu'il y a des profils qui sont stressés mais qui ne savent pas forcément reconnaître le stress?
Je pense que tous les grands chefs d'entreprise qui n'arrêtent pas de courir entre 2 avions et 3 trains, ce ne sont pas les personnes les plus zen qui soient au monde. Je pense que certains étudiants, avant les périodes d'examen, sont effectivement dans des limites de grand stress. Mais je pense aussi que la jeune mariée qui est en train de préparer sa robe et sa tenue pour sa journée, elle est aussi également dans une situation de stress alors que c'est le plus beau jour de sa vie.
Est-ce qu'il y a des profils un peu types qui sont plus sujets au stress d'après leurs caractéristiques physiques, je dirais, au départ? Leur profil type ?
Alors, ça, oui, vous aimez bien toujours faire un profil type, alors que moi, je fais une médecine de l'individu, donc j'ai toujours du mal à mettre les gens dans des catégories. Mmh. Ce qui est certain, c'est que...
Non, mais je pense à ça parce que j'aime bien faire ça. C'est vrai qu'en Ayurveda, en médecine ayurvédique, dans les types Pitta, Kapha, Vata, c'est vrai qu'il y a des profils qui sont quand même plus nerveux, par exemple. Voilà, on reconnaît des gens plutôt, plutôt secs, cheveux cassants, etc.
Bah, c'est un peu ça. En fait, là, c'est un peu le profil d'un quelqu'un qui serait un peu hyperthyroïdien. C'est quelqu'un qui réagit beaucoup au stress, par exemple. Et sans être dans la maladie thyroïdienne, les gens qui ont une fonctionnalité thyroïdienne forte peuvent être... et donc, on les reconnaît par ce profil grand, sec, une grande chevelure et réactif aux moindres choses. Vous avez toutes les personnes qui ont des problèmes de tension artérielle. C'est des gens qui sont sur un terrain de stress chronique sur toute une vie. On a des personnes qui se réveillent avant que le réveil ne sonne le matin. Ce sont des personnes qui sont sujets à être beaucoup plus stressées que les autres. Voilà, on peut déterminer plusieurs groupes dans lesquels chacun peut se retrouver, parce que on peut aussi avoir une vie très léthargique et pourtant être un grand stressé par d'autres stress psychiques ou autre chose. Donc c'est, il y a pas, je pense pas qu'il y a un profil particulier de personnes stressées ou pas, ou sensibles au stress ou pas. Je pense qu'on est tous stressés. Le propre du vivant, c'est de vivre dans le stress, puisque cette information qui change notre routine, c'est celle qui nous permet de nous adapter et de remettre les niveaux d'équilibre dans notre organisme pour répondre à la sollicitation du monde extérieur.
J'ai fait un podcast avec le professeur et qui est expert en épigénétique, Bruce Lipton, l'américain.
Oui.
Et il dit que vraiment le stress est délétère pour notre santé, parce qu'aujourd'hui on est dans une civilisation où finalement très souvent on subit un stress d'un tigre qui pouvait, alors lui il prend l'exemple du tigre qui nous agresse, mais enfin peu importe, d'un très grand stress qui est un stress de survie, et que de plus en plus on s'afflige en fait des stress comme ça délétères, avec des situations qui ne sont évidemment pas de l'ordre de la survie, mais notre corps l'entend comme ça.
Alors il a extrêmement raison. Et par contre, c'est les excès de stress, on va plutôt dire, que le stress en lui-même. Et c'est vrai que moi aussi, je prends souvent cet exemple que, en fait, on a une partie primitive en nous. Il faut imaginer Homo sapiens à l'époque du paléolithique, vivant dans la savane et n'ayant aucune protection, aucune arme avec lui. Il est évident que déjà, il est un peu sur le qui-vive pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prédateurs. Mais quand il se retrouve nez à nez avec le lion, il a intérêt à prendre des décisions rapides.
Oui.
À ce moment-là. C'est vrai que dans notre monde moderne, eh bien, en fait, l'homme est devenu grégaire. Il a constitué une société qu'il protège avec des maisons, avec un ordre de fonctionnement dans la société. Si bien que, en fait, le principal prédateur de l'homme, c'est devenu l'homme maintenant, par des phénomènes de compétition. Et donc, on se retrouve dans une dynamique qui n'est pas la réalité de la survie. On peut être dans une dynamique de stress énorme, comme dans la savane, simplement parce qu'on est au sein de notre entreprise et qu'on est en compétition avec les collègues pour avoir le poste qui va s'ouvrir ou pour ne pas être licencié, tout simplement.
C'est ça.
Donc, on est dans ces dynamiques-là qui ne sont pas celles de la survie au sens propre, on va dire, mais notre corps les intègre de la même façon, si bien qu'il va se mettre dans la même dynamique. Et comme nous savons, nous sommes des êtres pensants, nous avons en plus cette capacité à inventer des stress qui n'existent pas.
Oui. Quelles sont les conséquences du stress sur notre santé concrètement ?
Ben c'est surtout un épuisement des dynamiques de réponse à ce stress.
Et oui.
Le principal épuisement dans notre société moderne, en fait, le nom qu'on lui donne, c'est le burn-out, c'est l'accumulation de nombreux stress. Il faut savoir qu'on peut avoir des stress qui sont énormes et sont tellement gros que tout le monde les voit et tout le monde les reconnaît, mais on peut aussi avoir des petits stress répétitifs au quotidien qu'une personne ne voit sauf la personne qui les subit. Et c'est la pire des choses, parce que quand on subit un stress qui n'est pas reconnu par les autres, on passe vraiment pour quelqu'un un peu de farfelu, alors qu'on subit cette agression-là. Et là-dedans, on peut voir le harcèlement moral, on peut y voir plein de choses comme ça. Ce sont aussi des stress qui viennent nous détruire. Ça fait baisser notre immunité. Ça nous fragilise par rapport à toutes les maladies que notre immunité protège. Et en particulier, ça peut nous amener sur des problématiques de dégénérescence de nos cellules. Donc au pire, l'accumulation du stress peut nous accompagner vers des cancers. Ça peut, si on a un autre profil et que c'est plutôt notre cœur qui va être hyperactif, ça peut nous amener vers des infarctus. Si on a des problèmes plutôt sur la vessie, ben ça peut nous amener des gros problèmes de spasmes de vessie, voire même favoriser des calculs et des choses comme ça. Enfin, vous voyez, le stress, il peut prendre des formes complètement disparates en fonction du terrain de chacun.
Bien sûr.
Mais c'est souvent l'accumulation de plusieurs stress de vie qui nous amène à la maladie. Parce que il faut bien comprendre que physiologiquement, le stress est une nécessité pour que l'on fonctionne au quotidien dans un monde qui est globalement hostile.
Alors, j'avais interviewé aussi une autre personne dans un podcast qui parlait aussi des stress qui sont liés en fait à l'homéostasie. En fait, notre corps a une recherche d'équilibre permanent. Et quand effectivement, par exemple, on se nourrit mal, typiquement, on va créer un stress aussi à l'intérieur parce que notre corps va chercher sans arrêt à rééquilibrer les paramètres. Et ça, ce sont des stress dont on a peut-être moins conscience.
Alors, tout ça, c'est vrai, bien sûr, parce que quand vous avez un stress, vous mettez en dynamique votre organisme pour répondre à ce stress. Vous êtes confronté à une agression. Vous subissez, on vous donne une claque, par exemple. Hein, donc, bref, vous allez réagir comment ? Ben déjà, vous allez avoir mal, vous allez avoir des rougeurs, vous allez vous écarter de l'agresseur. Et puis progressivement, la rougeur sur la joue va s'estomper, la douleur va disparaître et vous revenez au même état où vous étiez avant qu'on vous donne cette claque. Surtout si vous avez réussi à vous enfuir de votre agresseur, c'est plus facile.
Oui.
Bon, donc c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que le stress vous met dans une dynamique et après votre organisme répare cette dynamique pour vous ramener dans le même état initial. Ça, c'est cette notion d'équilibre qu'il faut bien comprendre. Donc la vie reçoit des stress qui nous mettent dans une dynamique d'adaptation, et cette dynamique d'adaptation va chercher un autre équilibre par rapport à l'agresseur, puis lorsque l'agresseur a disparu, il va revenir dans un équilibre physiologique qui était initial. Notre vie, elle n'est faite que comme ça. Donc on n'arrête pas d'être comme pour ceux qui savent faire de la voile, hein, si vous voulez remonter au pré par rapport au vent qui est face à vous, on n'arrête pas de tirer des bords, et ben notre vie c'est comme ça. On oscille le long d'une théorie, d'une ligne théorique qui serait toute droite, on oscille le long de cette ligne. Et en fonction des stress, parfois, on a été tellement agressé, qu'on s'est tellement éloigné de cette ligne initiale qu'on n'a plus la capacité d'y revenir. Et là, l'organisme va se mettre dans un autre état d'équilibre qui est le meilleur équilibre qu'il va trouver pour fonctionner. Mais il s'éloigne de son optimum de fonctionnement. Et il peut ainsi, de changement de niveau d'équilibre en changement d'équilibre, à arriver sur des niveaux qui font que une information extrêmement minime va le faire basculer vers une grave maladie. C'est ça qui surprend toujours, hein. On dit, putain, il a supporté tellement d'agressions dans sa vie, il a résisté contre tout. Et puis là, simplement, il a juste eu un coup de fil qui lui dit qu'il était à découvert et paf, il nous fait une grave maladie. C'est pas normal. Donc, en fait, c'est simplement qu'on a accumulé et qu'on a changé de niveau d'équilibre comme ça. Et l'alimentation fait partie de notre environnement. Donc, c'est aussi important que tout le restant. Donc, quand vous avez une mauvaise alimentation, vous entraînez effectivement une surcharge de travail à votre organisme. Et ça, c'est un stress. Et ce stress peut, à la longue, vous rendre malade, bien sûr.
Oui. Alors, justement, dans ce podcast, on va étudier quelles stratégies anti-stress on peut mettre en place. Par exemple, soutenir la surrénale, la thyroïde. Quels organes, en fait, sont vraiment impactés directement? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc les deux axes endocriniens qui sont les plus soumis au stress sont effectivement la surrénale et la thyroïde, en fait les axes qui gèrent ces deux glandes-là, parce que ce sont des glandes de l'adaptation. Donc la surrénale, elle gère la survie dans l'instant, et la thyroïde va gérer la survie dans la semaine, à peu près. Donc effectivement, ce sont deux axes endocriniens qu'il faut soutenir, surtout quand on a une vie qui est extrêmement sollicitée par des changements.
Comment est-ce qu'on peut les soutenir ?
Alors la surrénale, c'est effectivement tout le monde connaît la vitamine C, c'est un des éléments nutritifs de cette surrénale, mais on peut aussi avoir une alimentation qui va apporter beaucoup de pigments rouges comme les fruits rouges, comme les poivrons rouges, toutes ces choses-là. Ces aliments-là sont des aliments un peu privilégiés pour la surrénale. Vous avez des plantes aussi qui sont très intéressantes pour la surrénale, comme le cassis, comme la cannelle, c'est des plantes qui vont soutenir fortement cette surrénale. Et donc, si vous avez des fragilités ou de l'épuisement qui vient, vous pouvez utiliser cette cannelle, par exemple, qui en infusion, qui peut vous accompagner le matin pour vous donner un certain tonus. Alors, vous pouvez faire l'erreur de prendre du café pour garder un certain tonus, mais quand vous prenez du café ou du thé, vous allez stimuler l'alpha sympathique, c'est-à-dire cette partie du système nerveux dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient donner l'information du stress. Mmh. Donc là, vous avez une fausse dynamique énergétique puisqu'elle va vous épuiser dans le stress. Donc, il faut vraiment fuir toutes ces boissons excitantes et revenir donc sur des plantes qui sont beaucoup plus directement sur le soutien des glandes surrénales.
Le cassis en infusion également ?
Oui, les feuilles de cassis, c'est très très bien. En thérapeutique, nous, on utilise le cassis en gémothérapie, c'est-à-dire qu'on utilise des bourgeons de cassis. Mmh. Voilà, vous avez aussi l'églantier qui est une plante importante là-dessus. Vous avez aussi beaucoup de plantes comme le pin, le sapin, qui vont agir sur les surrénales, le romarin qui va agir sur les surrénales, la sarriette, le thym, c'est des plantes qui vont bien soutenir ce système glandulaire.
La vitamine C, on l'évite sous forme, j'imagine, de vitamine C de synthèse. Plutôt, on les trouve dans les, vous avez parlé des poivrons rouges, des fruits rouges, etc. Et puis là, des plantes en question. Qu'est-ce qu'on peut penser, par exemple, du jus d'orange ?
Alors, le jus d'orange, c'est un des fruits qui est réputé très riche en vitamine C. Il n'y a pas que lui. Le jus d'orange a une action importante sur la vésicule biliaire et favorise une chasse biliaire importante, c'est pour ça qu'il est légèrement laxatif. Et moi, je trouve un peu dommage de vider la vésicule biliaire le matin au petit-déjeuner. Donc, le jus d'orange le matin au petit-déjeuner, c'est pas forcément ce que je préconise. Je pense qu'on peut avoir d'autres apports en vitamine C ou l'orange dans le milieu de la matinée, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Vous avez le cassis qui est intéressant en jus, vous avez le kiwi qui est un fruit très intéressant. Voilà. Par contre, pour rebondir sur la forme de synthèse de vitamine C, faut bien comprendre que la nature, elle fait bien les choses, et puis le chimiste plutôt ne fait pas forcément les choses aussi bien que la nature. Et la molécule de vitamine C, elle peut s'orienter de deux façons dans l'espace. Or, la nature ne forme qu'une seule façon. Donc, quand vous avez une vitamine C artificielle, vous avez les deux formes. Et donc, il y a une forme que votre organisme ne sait pas assimiler. Donc, vaut mieux aller chercher des vitamines C d'extraction naturelle qu'on va récupérer dans des fruits adaptés.
Vous savez
que le poivron rouge est la plante dans laquelle on a découvert la vitamine C. C'est une des plantes les plus riches en vitamine C, le poivron rouge.
Ah oui, et je pensais à l'acérola.
Alors, l'acérola est très, très réputée également pour son apport en vitamine C. Moi, j'adore des vitamines C qui sont extraites du cassis parce qu'on a toutes les propriétés propres du cassis qui vont avoir aussi une action directe sur les différentes hormones qui gèrent l'axe qui gère les surrénales.
Ça, on peut le trouver où d'ailleurs, cette vitamine C sous forme de cassis, là, comme vous le disiez ?
Bah, chez toutes les personnes qui les vendent, donc je sais pas si on peut
oui,
donner.
Oui, bien sûr, on peut donner. Hein. On n'est pas à la télévision, on n'est pas soumis aux règles. Non, mais je pensais c'est plutôt pharmacie, magasin bio. Est-ce qu'il y a une marque à privilégier? On peut donner, hein, alors, pas de problème.
Moi, j'aime beaucoup dans les vitamines C. J'aime beaucoup la vitamine C que fabrique le laboratoire Biophénix.
D'accord.
Qui fait une extraction totalement à l'eau. Il n'y a aucun solvant et on a plus de 80% de cassis. Le reste c'est du citron, de l'acacia et du cynorhodon. Donc on est sur un produit qui est 100% naturel, 100% bio, sans aucun solvant autre que l'eau. Ça s'achète en poudre, en sachet, et ça on le mélange dans un verre d'eau, et c'est pour moi la meilleure des vitamines C que j'ai pu trouver jusqu'à présent sur le marché.
D'accord. Le magnésium, est-ce que c'est un bon anti-stress ?
Alors le magnésium est intéressant, très intéressant, parce que nos cellules, quand elles sont stressées, elles vont brûler beaucoup de calcium pour faire leur fonctionnement. Et en fait, le magnésium vient dans ce métabolisme du calcium, et souvent l'organisme va se servir du magnésium pour éviter de brûler son stock de calcium. Donc c'est très 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 important de ne pas perdre du calcium, parce qu'il est vraiment important pour notre vie, et alors qu'on peut brûler le magnésium comme on veut, ça pose aucun problème. Donc on est tout le temps en carence de magnésium, et ça sert à rien de le doser, parce que la forme qu'on dose, c'est pas forcément celle qui est vraiment utilisée. Donc, il n'y a aucune nécessité, à mon avis, de doser le magnésium. Il faut en faire des apports réguliers. Vous avez des eaux minérales qui vous apportent ça. Vous avez plein d'aliments qui peuvent vous apporter ce magnésium, et donc il ne faut pas hésiter d'aller le consommer, ou alors en complément alimentaire.
D'accord, on pense aux amandes, des choses comme ça.
Excusez-moi, je n'ai pas entendu.
On pense aux amandes, par exemple.
Voilà, aux amandes, mais vous avez les bigorneaux, par exemple, qui est un des aliments qui est le plus riche en magnésium qui soit. On a des eaux minérales comme l'eau d'épargne qui apporte beaucoup de magnésium. On peut le trouver sur plein de formes, le magnésium.
D'accord.
Alors, il est très très intéressant parce que il a une action directement sur le psychisme et permet aussi d'améliorer l'humeur, et donc ça évite de créer des stress supplémentaires avec les stress auto-induits par notre cerveau.
Justement, pour l'humeur, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre à part le magnésium? Est-ce qu'il y a des tisanes justement un peu calmantes pour lutter contre le stress et un peu se réguler?
Alors, vous avez des tisanes qui vont réguler le système nerveux végétatif, donc comme la mélisse, comme la lavande, comme l'aubépine qui est beaucoup plus forte, comme la camomille, comme la passiflore. Tout ça, c'est des éléments qui sont calmants, apaisants et qui permettent de sortir du stress. Vous avez des tisanes comme vous pouvez faire avec le coquelicot, la fleur de coquelicot qui va vous aider à vous endormir également. Alors le problème des tisanes pour dormir, c'est que ça vous réveille ensuite pour aller faire pipi.
Oui, c'est ça.
Donc
pas chez tout le
monde.
J'évite
de donner des tisanes pour dormir, mais c'est vrai que voilà, le coquelicot est une plante intéressante. L'escholzia, qui est ce petit coquelicot orange qui nous vient de Californie, est également très intéressant. C'est une plante qu'on utilisait dans le calumet de la paix, l'escholzia.
Ah.
Donc on imagine bien son côté apaisant, calmant qu'il pouvait produire.
Parfait. On va donc fumer le calumet de la paix. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies en plantes pour lutter contre le stress? On est dans un podcast un peu ping-pong comme ça sur des stratégies un petit peu rapides. Évidemment que si on a un stress énorme, il faut consulter et puis traiter le problème à la racine, hein, on est d'accord. Tout ce qui est cohérence cardiaque, méditation, pratique de bien-être, j'imagine favorise le bien-être et le retour au calme.
Ça, c'est une évidence, hein, bien sûr. Tout ce qui va nous permettre de se recentrer sur soi, de faire une mise au point, d'apaiser son environnement aussi, c'est très important. S'éloigner des bruits qui sont inconstants et très puissants, c'est comme des bruits de klaxon ou d'ambulance, des choses comme ça, c'est bien de s'en éloigner. Vous savez que si vous êtes confronté à un stress très aigu et que vous n'avez pas grand-chose sous la main et que vous êtes en ville, par exemple, qu'on a failli vous renverser et que vous êtes tout tremblant de frayeur de ça, vous pouvez tout très facilement trouver un fruit qui va vous aider beaucoup, c'est le jus de citron. Et vous pouvez rentrer dans n'importe quel bar, je ne pense pas que vous trouverez un bar qui refuse de vous faire un citron chaud. Et si en plus ils ont un peu de cannelle, c'est encore mieux. Et si face à un grand stress, vous prenez un citron chaud avec de la cannelle, et je peux vous assurer que ça va vous aider à bien répondre à cette agression.
Ah ben ça, c'est bon à savoir.
Alors, c'est valable autant pour des agressions psychiques que des agressions physiques ou que des agressions infectieuses. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous promener et puis il y a eu un coup de vent où vous avez pris un petit peu d'eau sur la tête et que vous sentez les frissons là qui viennent, comme quoi vous êtes en train de tomber malade. Ça aussi, c'est un stress qui va vous donner un gros rhume, peut-être la grippe ou le corona, on ne sait pas. Hein.
Oui.
Mais si vous agissez très très vite et que vous prenez un citron chaud et en plus avec de la cannelle, c'est encore mieux, eh bien vous pouvez enrayer toute cette invasion virale ou bactérienne et passer juste à côté de la maladie et vous n'allez pas la développer.
La cannelle, on met un bâton de cannelle dans ce citron chaud par exemple?
Voilà, un bâton de cannelle ou alors de la poudre de cannelle, hein, tout simplement. En insistant un peu, on trouve ça dans les bars. Bon, la cannelle, c'est un peu plus difficile à avoir, mais très souvent, c'est quand même accessible.
Alors, Jean-Christophe Charrier, j'ai entendu dire que le stress avait un impact sur la mémoire. Est-ce que c'est vrai?
Alors, bien sûr que c'est vrai, parce qu'en fait, lorsque vous êtes, si on revient au paléolithique et que vous êtes dans une dynamique tranquille, vous faites vos choses et puis d'un seul coup, il y a un prédateur qui est face à vous. Donc là, vous n'avez qu'une solution, c'est prendre la meilleure décision qui soit pour sauver votre vie. Donc si il vous faut monter en haut d'un arbre ou s'il faut franchir un ravin ou n'importe quoi, votre cerveau, il va tout de suite visualiser autour de vous la solution à prendre pour se sauver par rapport à l'agresseur. Et donc, en fait, le cerveau, il va faire de l'économie et il va économiser la mémorisation. C'est pour ça, lorsqu'on subit une agression ou un attentat, maintenant, on met des cellules de crise avec des psychologues qui aident à passer cet événement de crise qui a été le vécu qu'on a pu avoir. Parce qu'en fait, on va pas mémoriser les scènes, on va pas mémoriser dans un accident de voiture le moment où on a été expulsé de la voiture 30 secondes avant qu'elle explose. on mémorise pas ça. Par contre, ça reste quand même quelque part dans notre inconscient et ça va ressortir dans des rêves et dans des angoisses qui peuvent ressortir plusieurs années plus tard. Donc, le stress aigu peut effacer cette mémoire et donc on va rester bloqué là-dessus. Et si on fait pas un travail pour aller rechercher ça, notre vie peut être envahie par des situations qui ne sont pas cohérentes par la suite. Et alors, à un degré bien moindre, lorsque vous êtes un peu stressé tous les jours, et là, vous allez tous vous reconnaître, c'est que où c'est que j'ai posé mes clés de voiture? Mince, où sont mes lunettes? Pourquoi j'ai mis le rouleau d'essuie-tout dans le frigo? Voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'on va faire.
Tout à fait.
Parce qu'on est stressé et on fait les choses de façon automatique et on les mémorise pas. Et donc, parfois, on va poser l'objet là, d'un endroit incongru. C'est pas qu'on devient fou, c'est simplement qu'on est trop stressé et qu'on prend pas conscience de tous ces automatismes que l'on fait.
Mais ça, c'est un bon conseil. C'est vrai que je me dis de plus en plus souvent, parce que je fais beaucoup de choses en même temps et je suis un peu multitâche, et je me dis, je dis souvent une chose à la fois. Allez, une chose à la fois. Quand je vois que je commence un petit peu à m'éparpiller, hop, une chose à la fois.
Voilà, c'est important.
Parce qu'on, on s'aperçoit qu'en plus, on perd du temps. Hein. On croit qu'on va en gagner, mais en fait, on n'en gagne pas.
Mm-hmm. Complètement. Il faut vraiment se poser sur ce que l'on fait. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cette dynamique de stress, parce que le problème de cette dynamique de stress, c'est qu'elle s'auto-entretient.
Bien sûr.
Donc, on vous donne un niveau de stress à 3 et puis vous, tout seul, vous êtes capable de le monter jusqu'à 9. Quoi.
Oui, absolument. Pour terminer, est-ce qu'on peut donner une petite recette anti-stress et fatigue au petit déjeuner? Parce qu'on sait que la fatigue, évidemment, est liée au stress. Hein, si on dort mal, qu'on bosse beaucoup, tout ça, c'est des cercles vicieux. Quel serait un petit déjeuner pour être d'attaque comme ça et bien recharger les batteries?
Il faut s'asseoir pour son petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner qu'on prend entre la douche, l'armoire à vêtements et les chaussures et qu'on mange une bouchée entre chaque, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc là, vous partez avec votre journée, vous n'allez pas mâcher, vous n'allez pas saliver, donc vous allez être mal toute la journée à cause de ça. Non, si vous êtes dans une dynamique stressée, il faut vraiment vous prendre le temps du vrai petit déjeuner. Quitte à mettre le réveil 10 minutes, un quart d'heure plus tôt, mais il faut vraiment privilégier ce temps-là. Il faut que vous soyez assis, il faut que vous ayez éventuellement, j'allais dire, un temps calme autour de vous, donc une musique, plutôt musique classique que du hard rock, hein. Mais quelque chose qui vous accompagne dans l'éveil du matin. Il faut que vous preniez le temps de mastiquer, il faut que vous preniez le temps de saliver sur ce que vous mangez. Surtout, n'écoutez pas les informations qui fâchent, parce que là, ça va vous énerver. Préservez-vous un petit déjeuner, vous allez prendre le temps d'émerger de votre nuit et de vous préparer à votre journée.
Parfait.
Et moi, je vous invite à éviter les petits déjeuners qui sont trop riches en sucre et trop riches en produits laitiers, qui eux vont entraîner des surcharges de fonctionnement sur votre pancréas et qui vont pas aider du tout votre réactivité au stress.
Quand on pense à sucré, on pense aux glucides qu'il y a dans le pain aussi, par exemple.
Oui, tout ce qui est pain, croissant, viennoiserie, toutes ces choses-là, brioche, c'est à éviter. Faut mieux venir sur un pain plus traditionnel, plus ancien. L'idéal, c'est un pain dont la farine a été faite à la meule de pierre. Ça, c'est des choses qu'on peut intégrer. On va éviter la confiture. Peut-être qu'on mangera une compote, mais je préférerais encore qu'on mange un fruit. Ou alors, on peut faire un petit déjeuner complètement salé dans lequel on mettra zéro sucre et donc on peut manger le blanc de poulet qui reste de la veille. On peut faire des choses. On peut manger une boîte de sardines à l'huile avec du pain et du beurre. Et puis, on peut boire sa boisson chaude qui va nous accompagner dans cet éveil du matin. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez vraiment une ambiance qui vous pose pour le petit déjeuner. Alors, ce que je dis, c'est le monde idéal, hein, parce que quand vous avez 3 enfants en bas âge à amener à l'école et que vous avez 5 minutes entre l'école et votre boulot et que vous êtes épuisé de la veille parce que personne n'a voulu aller se coucher et que le petit s'est réveillé 3 fois dans la nuit pour cause de cette erreur nocturne, c'est pas la tranche de vie, on va dire, où on est le plus calme.
Oui.
Et voilà, si on peut tendre vers poser son petit déjeuner et si vous n'avez pas la possibilité parce que c'est trop speed, et ben si avant d'arriver au boulot vous posez même sur un banc 2 minutes et puis là vous faites 3-4 respirations pour vous poser sur vous et arrêter de dynamiser cette dynamique de stress, ça sera important pour vous et vous serez beaucoup plus performant par la suite.
Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr. Et bien entendu, retrouvez tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante ou encore Soigner au naturel, les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose, ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.